La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, je m'appelle Gaël Cosandet, je suis pasteur de l'église adventiste qui se réunit à Colomiers. Vous est-il arrivé de manquer de ressources ? Que ce soit de l'argent, du temps, de l'énergie, nous sommes tous confrontés à nos limites et à nos manques. Le texte que nous explorons aujourd'hui interroge la question de nos besoins et de nos moyens. Et il semble que nous avons des difficultés à bien identifier nos réels besoins, ce qui est déjà problématique, mais aussi nos réelles ressources, ce qui est déjà plus étonnant. Je fais référence à l'épisode de la multiplication des pains que nous trouvons dans les évangiles. En fait, il a une telle importance qu'on n'en trouve pas moins de 6 récits, et cela dans les 4 évangiles, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Aujourd'hui, je vous propose de l'évoquer sous l'angle de l'évangéliste Jean, même si nous ferons quelques incursions dans les récits parallèles que nous trouvons dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Au chapitre 6 de l'évangile de Jean, le récit commence avec Jésus reprenant sa mission en Galilée après une série de discussions houleuses avec les responsables religieux de Jérusalem. Le verset 4 indique que la Pâque était proche. Cette fête est mentionnée 3 fois dans l'évangile de Jean, ici étant la deuxième. Jésus en est donc ici à la deuxième année de son ministère, un peu plus d'un an avant sa mort. Je lis les 3 premiers versets du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Après cela, Jésus s'en va de l'autre côté du lac de Galilée, qu'on appelle aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suit. En effet, les gens ont vu les signes étonnants qu'il a faits en guérissant les malades. Jésus monte sur une montagne et là, il s'assoit avec ses disciples. Jésus semble vouloir prendre du recul, comme il le fait parfois, et se retire dans une région désertique. Les collines entourant le lac bien connu de ses disciples sont escarpées et il monte là pour prendre du temps avec ses disciples. La position assise est ici celle du rabbin qui enseigne ses élèves. Jésus semble donc vouloir se mettre à part pour un temps de discussion et d'enseignement avec ses disciples. Mais comme souvent, les plans de Jésus sont bouleversés. Une foule de plus en plus nombreuse s'incruste dans la classe au point que toute la colline et les rivages du lac se couvrent d'une marée humaine. Et il y en a encore qui arrivent que l'on peut apercevoir en une longue file le long de la rive. Le verset 5 dit que Jésus lève les yeux et voit cette grande foule qui vient à lui. Alors, il va changer ses plans. Ce n'est pas la première fois que l'évangile montre un Jésus qui change ses plans face aux besoins de ceux qui viennent à lui. Et c'est un premier aspect que je trouve étonnant. Je vois souvent Dieu comme un démiurge qui tire toutes les ficelles et qui mène l'histoire à la baguette, où tout est prévu d'avance et gravé dans le marbre. Mais là, je rencontre un Dieu qui s'expose aux aléas d'une interaction avec sa créature qu'il a créée libre. Un Dieu qui change ses plans face aux besoins qu'il perçoit. Je suis conscient que c'est un peu anthropomorphiser Dieu, mais j'aime l'idée d'un Dieu qui laisse réellement du champ libre aux humains, quitte à devoir accompagner leurs choix et leurs besoins. Et cela d'autant plus quand on connaît les motivations des dites créatures. Jean précise pourquoi ces gens sont là. Ils ont vu Jésus guérir des malades. Les autres évangiles racontent donc qu'ils étaient là pour ça et Jésus ne le leur a pas refusé. Jésus n'est pas aveugle aux souffrances humaines et à leurs besoins, et il va même plus loin. Là où les autres évangélistes décrivent cette séance de guérison, puis les disciples qui veulent renvoyer les gens chez eux à l'approche du soir, Jean va à l'essentiel. Je lis le verset 5. Jésus, levant les yeux et voyant une grande foule venant à lui, dit à Philippe : « Où allons-nous acheter des pains pour que ces gens puissent manger ?» La question ne manque pas de surprendre. Déjà, cela semble complètement fou de même envisager faire un repas pour une telle foule. Le verset 10 précise qu'il y avait là 5000 hommes. Si l'on rajoute les femmes et les enfants, il devait bien y avoir entre 10 et 15 000 personnes à nourrir. Je me souviens de mon mariage et du casse-tête que c'était déjà de réussir à nourrir 150 personnes, alors je peux à peine imaginer ce que ça pouvait représenter de nourrir 10 fois plus de personnes. Mais la question est d'autant plus curieuse que Jésus ne demande pas s'il est possible de nourrir cette foule et si les disciples sont d'accord. Il pose une question purement pratique. « Tiens, Philippe, tu es de Bethsaïda, tu connais le coin. Donc, où se trouvent les boulangeries les plus proches ?» Alors, je vois déjà la tête du pauvre Philippe. Même aujourd'hui, avec nos supermarchés, on aurait des difficultés à trouver assez de pain pour nourrir 15 000 personnes, là, comme ça, et en plus en fin de journée. Donc on imagine à l'époque. Comme la question est vraiment bizarre, le narrateur, Jean, écarte immédiatement tout équivoque sur les intentions de Jésus. Le verset suivant indique que Jésus dit cela pour tester Philippe et qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Finalement, Jésus n'a pas renoncé à enseigner ses disciples et il va utiliser cette circonstance comme outil pédagogique. Comme quoi, avec Dieu, nous pouvons toujours apprendre des défis qui se présentent pour nous au quotidien. C'est peut-être même une manière intéressante de les affronter. Au lieu de crier à l'abandon, nous pouvons réagir en disant « Bien Seigneur, puisque tu sais ce que tu fais, qu'est-ce que je peux apprendre dans cette circonstance ?» Comme souvent sous la plume de Jean, l'apprentissage passe par un moment d'incompréhension, une fausse piste, qui permet ensuite à Jésus d'éclairer nos lanternes. Et ça ne manque pas avec le pauvre disciple sur qui tombe l'enseignement. Philippe, dans l'évangile de Jean, c'est l'homme du concret, celui qui croit parce qu'il voit, un peu comme Thomas. Au chapitre 1, pour convaincre son ami Nathanaël qui ne croyait pas à son histoire de Messie, Philippe lui avait dit « Viens et vois ». Au chapitre 12, des étrangers s'adressent à Philippe parce qu'ils veulent voir Jésus. Et au chapitre 14, c'est Philippe qui demande à Jésus de leur montrer, leur faire voir le Père. Philippe est bien le disciple du concret. Alors quand Jésus lui pose la question, Philippe répond à côté. Au lieu de sortir son GPS pour faire la liste des boulangeries du coin, il sort la calculette. Au verset 7, il répond « Même avec 200 deniers, ça ne suffirait pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. » À la question « Où ?», Philippe pense immédiatement à « Combien ?». Et là, je suis bien attrapé parce que je crois que j'aurais réagi exactement pareil. C'est le réflexe. Combien est-ce que ça va coûter ? Comme si l'argent était seul capable d'opérer des miracles. En bon occidental capitaliste, je me rends compte que c'est une croyance bien installée dans notre subconscient collectif. C'est peut-être pour ça que Jésus parle de cette conception comme d'une religion. Croire à l'argent comme la mesure de tous les possibles, de tous les miracles, c'est mettre sa foi dans un Dieu. Voilà ce que la réponse de Philippe révèle en moi. Elle révèle mon horizon et aussi mon égoïsme et mon insécurité financière. Combien de fois Jésus a-t-il répété que la vie avec Dieu est bien plus large que l'évaluation de nos ressources ? Là où est ton trésor, là est ton cœur, a-t-il dit. C'est là qu'un autre disciple entre en scène. C'est André. Il se présente devant Philippe et Jésus avec un enfant et il dit « Il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Et comme il sent bien le ridicule de sa proposition, il ajoute tout de suite « Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Là où Philippe est l'homme du concret, André c'est le disciple des relations. C'est celui qui amène les gens à Jésus. Dans notre épisode, c'est cet enfant, mais au chapitre 1er de Jean, il a permis la rencontre de son frère Simon avec Jésus. Et au chapitre 12, c'est vers lui que Philippe se tourne avec ses étrangers curieux. C'est André qui va les amener vers Jésus. J'aime l'approche d'André, qui est plus créative. Comme Jésus voulait donner une leçon à Philippe, il avait volontairement limité le champ des possibles en posant sa question sous l'angle commercial. Comme si du pain, ça ne se trouvait qu'en l'achetant. Et Philippe était tombé dans le panneau. De la même manière, nous pouvons limiter nos ressources en ne voyant qu'une seule solution à notre problème, et donc si cette solution ne fonctionne pas, eh ben, c'est foutu. C'est ce que Thomas d'Assembourg appelle la pensée binaire. C'est lorsqu'on envisage une solution uniquement sous l'angle de deux possibilités, soit X, soit Y. Dans un désaccord, il y a forcément quelqu'un qui a raison et l'autre qui a tort. Dans un conflit, il ne pourrait y avoir qu'un gagnant et un perdant. Ou alors une personne est forcément soit une manuelle, soit une intellectuelle. Mais c'est forcément limitant. Donc parfois le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas de solution, c'est qu'on a mal posé la question. Et s'il était possible d'être gagnant-gagnant? Et s'il y avait des ressources insoupçonnées dans une autre manière de penser? André est donc plus créatif. Il sort des paramètres du problème tel que Jésus l'a posé. Il regarde au-delà. Au lieu de s'enfermer dans une réflexion comptable, il regarde les gens. André a un regard sur la foule. Il s'intéresse aux gens et il est capable de voir cet enfant. Pour moi, cela interroge non seulement notre manière de penser nos ressources, mais aussi notre manière de regarder l'autre. Sommes-nous capables d'avoir ce regard sur l'autre qui permet d'en déceler le potentiel ? Contrairement aux autres évangélistes, Jean est le seul à mentionner que les 5 pains et les 2 poissons proviennent d'un enfant. Les enfants faisaient partie de ces groupes invisibles à l'époque, comme l'étaient les femmes, les pauvres ou les malades. Là où Philippe ne pensait qu'aux chiffres, André a vu cet enfant avec ses 5 pains et ses 2 poissons. L'attitude d'André nous interpelle sur notre manière de regarder les autres. Vous savez, ces gens discrets, dans l'ombre, ceux qui ne font pas de bruit. Et l'accueil de Jésus au don de cet enfant nous montre que nous aurions tort de sous-estimer que c'est peut-être d'eux que peuvent venir les ressources qui nous manquent. Après, on ne sait pas si c'est André qui a identifié l'enfant au milieu de la foule ou si c'est l'enfant qui s'est spontanément manifesté pour offrir naïvement ses réserves. Les enfants nous surprennent souvent par leur foi concrète et confiante. Et ça embarrasse bien les adultes qui se retrouvent confrontés à leurs contradictions. Cela doit sûrement nous encourager à oser prendre Dieu au mot et à mettre à son service ce que nous considérons trop vite comme des moyens insuffisants. Sommes-nous conscients de ce que Dieu peut faire avec les pains et les poissons qu'il a mis entre nos mains? Quand on les lui abandonne, comme cet enfant a donné son repas à Jésus, il peut en faire un miracle qui bénira beaucoup. La suite du récit se déroule ainsi, je lis à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Jésus dit « Faites asseoir tout le monde. Il y a beaucoup d'herbes à cet endroit et les gens s'assoient. Ils sont à peu près 5 000. Alors Jésus prend les pains, il remercie Dieu et il les distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons. Il leur en donne autant qu'ils veulent. Quand ils ont assez mangé, Jésus dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, il ne faut rien perdre. » Les disciples les ramassent et ils remplissent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restent après le repas. En voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire, les gens disent « C'est vraiment lui le prophète, celui qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus le sait, ils vont venir le prendre pour le faire roi. Alors il s'éloigne de nouveau dans la montagne tout seul. Voilà donc comment Jésus raconte ce miracle de la multiplication des pains. C'est un récit très simple, sans artifice. Ce n'est qu'à la fin que les gens se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose. Comme dans n'importe quel repas, Jésus commence par dire aux disciples d'inviter les gens à se mettre à table. Ensuite, il prononce le motzi, la prière juive rituelle de remerciement avant le repas, qui dit « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, souverain du monde, qui fait sortir le pain de la terre. » Puis il rompt le pain et le distribue, ainsi que les poissons. Une vraie communion avant l'heure. J'aimerais relever quelques détails de ce récit qui ne sont jamais gratuits dans les récits bibliques. Au verset 10, Jésus demande à ses disciples de faire asseoir les gens utilisant un mot qui évoque le fait de se mettre à table, comme on l'a déjà vu. Jean ajoute qu'il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. De l'herbe dans un désert, ce n'est déjà pas banal, mais beaucoup, cela évoque l'abondance. Et le lecteur attentif de la Bible pensera alors au psaume 23 qui commence ainsi « L'Éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien, il me fait asseoir dans de verts pâturages. » Comme Jean le rapportera plus loin au chapitre 10, Jésus dit « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » En nourrissant la foule à cet endroit, Jésus rappelle le Dieu qui veut prendre soin de ses créatures et qui donne en abondance. Mais il va plus loin en faisant de Jésus le canal de ce soin. Le geste de Jésus n'est pas un miracle, c'est un signe. C'est le mot que Jean utilise systématiquement pour les actions étonnantes de Jésus dans son évangile. Le mot grec « séméion », le signe. Dans notre passage, c'est le mot que l'on retrouve au tout début, lorsque Jean parle des foules qui ont vu les signes que Jésus a fait en guérissant les malades. Et c'est le même mot qu'on retrouve à la fin du récit lorsque la foule réagit en voyant le signe que Jésus vient de faire. Il faut donc donner un autre sens à cet épisode qu'un geste de prestidigitateur pour impressionner les foules. Si le miracle est un signe, c'est un sens théologique qu'il faut y voir. D'ailleurs, la première partie de la réaction de la foule montre que c'est bien ce qu'elle y a vu. le signe de quelque chose de plus important en train de se dire à eux. Le verset 14 dit « En voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire, les gens disent « C'est vraiment lui le prophète, celui qui devait venir dans le monde ». Quel est donc ce prophète que la foule semblait attendre? On peut penser par exemple à un épisode qui rappelle étrangement ce que Jésus vient de faire. Nous le trouvons dans l'Ancien Testament, au deuxième livre des Rois, chapitre 4, les versets 42 à 44. Je lis. Un jour, un homme arrive de Baal Shalisha. Il apporte à l'homme de Dieu 20 pains d'orge et un sac de grains qu'il vient de récolter. Élisée dit à son serviteur, « Donne les pains à manger à tous ces gens. » Mais le serviteur répond, « Comment est-ce que je peux nourrir 100 personnes avec cela ?» Élisée répond, « Donne les pains à manger à tous ces gens. En effet, voici ce que le Seigneur dit, « Chacun aura assez à manger et il restera encore de la nourriture. » Alors le serviteur distribue les pains à tous. Chacun mange et il y a des restes, comme le Seigneur l'a annoncé. Tout est présent dans ce récit, les pains d'orge reçus en cadeau, l'ordre de les distribuer, la réaction d'incrédulité, les gens rassasiés malgré tout, et les restes. Le prophète Élisée évoque le successeur du grand prophète Élie, qui avait tenté de ramener son peuple à Dieu. Élisée avait reçu une double part de l'esprit de son prédécesseur. En reproduisant le geste, Jésus se fait donc connaître comme le grand héritier des prophètes dont la mission était de ramener le peuple d'Israël à Dieu. Mais cela va plus loin. Lorsque la foule parle du prophète, elle pense aussi à un autre épisode. Et là, d'autres détails du récit s'alignent. Jean dit que cet épisode a lieu peu de temps avant la Pâque. Or, la Pâque célèbre le miracle que Dieu a fait à travers Moïse pour libérer les Israélites qui étaient esclaves en Égypte. Et ici, Jésus monte sur une montagne, dans un lieu désert, pour enseigner ses disciples. Il y est suivi par une foule qu'il va nourrir de pain. De la même manière, Moïse avait amené le peuple d'Israël à travers le désert, jusqu'à la montagne du Sinaï, pour y recevoir la loi, et il l'avait nourri miraculeusement dans le désert avec la manne. En plus, après le repas, il reste encore 12 corbeilles pleines de pain, 12 comme 12 tribus d'Israël. Et enfin, c'est ce même Moïse qui avait annoncé qu'un successeur viendrait, un prophète, un jour, mener son œuvre jusqu'au bout. Je cite ses paroles dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 15. « Dieu vous enverra un prophète comme moi. Celui-ci fera partie de votre peuple, et c'est lui que vous écouterez. » Les témoins de la multiplication des pains ne s'y trompent pas. Il y a là trop de coïncidences pour que cela ne soit pas un signe divin. Ils ont reconnu que le nouveau Moïse tant attendu est arrivé. Le Messie, ou le Christ en grec. Et c'est exactement ça l'objectif de Jean lorsqu'il raconte cette histoire. À la fin de son livre, au chapitre 20, les versets 30 et 31, il déclare ouvertement « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux que j'y ai écrits ont pour but que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Donc, les miracles, ça fonctionne pour convaincre? En fait, pas vraiment. Au moment où l'histoire devrait logiquement se terminer par un triomphe et un happy end, Jésus va à contre-courant. Le verset 15 nous dit que Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau seul dans la montagne. Comme s'il était obligé de se retirer, de disparaître pour empêcher qu'on se mette à l'utiliser plutôt qu'aller avec lui. Car toute la question, c'est la venue du Messie, oui, mais pourquoi? Pour quel projet? La suite du récit va montrer qu'il y a là un énorme malentendu. Le nouveau Moïse que la foule attendait, c'était le chef politique qui les libérerait de l'occupant romain. Et c'est le magicien qui ferait tomber tous les jours du ciel les croissants quotidiens. C'est ce qui apparaît dans la suite du récit. La foule galvanisée poursuit Jésus de l'autre côté du lac et s'engage alors une longue conversation qui aura pour résultat que la plupart des gens vont quitter Jésus scandalisés. L'opinion publique est bien versatile. Que s'est-il donc passé? Jésus l'explique au verset 26, je lis. « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu. Mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez compris les signes étonnants. Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme, mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec Dieu pour toujours. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. » Et au verset 35, « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. » Là où la foule attendait que Jésus change le monde à coups de baguette magique, Jésus révèle qu'il est venu changer les cœurs. Et c'est beaucoup moins confortable. Cela souligne tout le rapport ambigu que Jésus entretient avec les miracles. Pour Jésus, les miracles ne sont pas une démonstration de puissance pour forcer à croire. Pour Jésus, les miracles sont des signes, des panneaux indicateurs qui indiquent une direction mais qui ne sont pas la destination. Au début du ministère de Jésus, Satan l'avait tenté dans le désert justement sur ce registre. Il l'avait invité à faire une démonstration éclatante de son statut en transformant les pierres en pain. Au lieu de cela, Jésus a préféré collaborer avec la générosité d'un petit garçon pour nourrir une foule. Jésus ne veut pas imposer sa royauté par une démonstration de force. Il veut régner par l'adhésion volontaire de ceux qui l'écouteront et seront d'accord avec son projet. Voici le message incompris du miracle de la multiplication des pains. Alors, nous sommes aujourd'hui face à un choix. Acceptons-nous de croire en Jésus, le Christ, pour vivre la vraie vie selon son bon et beau projet ?
Combien de mains tendues, combien de cœurs avides, de visages battus, déjà couverts de rides. Combien d'êtres fourbus sont venus de si loin pour le voir. Combien de bras tendus, combien de ventres vides, combien de vies lassées d'attendre enfin la vie. Combien d'êtres affamés se sont rassemblés remplis d'espoir. Car aucune pression devant lui ne résiste, désarmé par autant d'amour. Il n'est aucune vie qui devant lui ne change et devienne partage à son tour. Et c'était Dieu qui parlait par sa bouche, et c'était Dieu qui touchait par ses mains, et c'était Dieu qui marchant sur les routes versait sur nous parfum du ciel. Combien de mains tenues, combien de cœurs aimés, de visages abattus, maintenant apaisés. Combien de vies cassées ont enfin pris un nouveau départ. Combien de liens noués, combien de vies touchées, de regards égarés maintenant retrouvés. Combien d'êtres nourris sont repartis, messagers d'espoir. Les yeux guéris voient maintenant les yeux blessés, cherchant une voie dans la nuit. Et leurs mains touchent maintenant les mains brisées, dans une immense chaîne de vie. Aujourd'hui Dieu parle encore par ses bouches. Aujourd'hui Dieu touche encore par ses mains. C'est toujours Dieu qui marchant sur nos routes répand sur tous le parfum du ciel. Une seule vie a pu donner l'espoir, un seul visage et demain. Combien de vies pourront enfin le voir sur nos visages et nos mains. Aujourd'hui Dieu veut parler par nos bouches. Aujourd'hui Dieu veut toucher par nos mains. Car c'est Dieu qui derrière toutes nos routes répand sur tous le parfum du ciel. Aujourd'hui Dieu veut parler par nos bouches. Aujourd'hui Dieu veut toucher par nos mains.